Floresquoire, la langouste. Elle était blonde comme une moisson d'août, et, par une duplicité de coquette, ne se jugeant pas suffisamment blonde encore, elle couvrait ses tresses et les frissons de sa nuque d'une poudre fine, couleur de tabac de Messine, d'où s'élevaient dans un petit nuage doré des parfums d'une tendresse indéfinissable, quelque chose comme de subtiles essences de Chypre. Sa gorge mince aux lignes pures et tentantes palpitait sous les plis mollement drapés d'un corsage rubis contenu par un fin croissant de diamants. Son délicat visage, rêvé certes par la tour et deviné par Watteau, tirait sa lumière de deux grands yeux ravis et pervers, dont les regards, comme des baisers bleus, faisaient briller des clartés d'étoiles, et d'une toute petite bouche, semblable à un œillet de pourpre, qui découvrait aux instants folâtres 32 perles d'un teint merveilleux. Ses mains, oh, de petites mains nerveuses de pianiste hongroise, planaient sur les objets qu'elle semblait toucher comme des ailes blanches de tourterelle et, dans la chine idéale qui hante la nostalgie des poètes, on n'eût pas découvert, même chez les paresseuses princesses de Taï, des pieds plus invraisemblables que les siens. Elle avait nom Cécile. Hélas, au berceau des filleules les mieux fêtées, une méchante fée surgit parfois, plus méchante que la gale, et mêle aux princesses des bonnes marraines, aux promesses des bonnes marraines, un présent chargé de mystification sournoise. Le jour du printemps où l'on baptisa Cécile, tandis que des archanges lui décernaient toutes les séductions, un démon marin entra, sans qu'on l'eût entendu, et jeta sur l'innocent bébé ces simples paroles. « Tu aimeras passionnément la langouste à la sauce mayonnaise, et cet amour aveugle te perdra. » Ce n'est pas tout d'aimer la sauce mayonnaise, encore faut-il savoir la préparer. Vous prenez un jaune d'œuf bien frais et vous le précipitez au fond d'un bol. Certains amateurs l'écrasent à tort dans une assiette à potage. Vous saisissez délicatement la fiole de cristal où l'huile assoupit son or liquide et vous versez doucement, bien doucement, goutte à goutte. Et en versant, vous remuez régulièrement avec une petite cuillère. Les hérétiques de l'assiette creuse vont jusqu'à se servir d'une fourchette et vous battez énergiquement, sans trêve, sans faiblesse. Les doigts qui battent doivent montrer la rapidité commune d'un volant de machine à vapeur et peuvent, au besoin, s'emporter. La main qui doit verser garde un calme impassible, une froideur, majestueuse et sereine. Une seconde d'oubli, tout est perdu. La combinaison miroitante prend aussitôt un spectacle, un aspect marécageux, parfaitement répugnant. Tout est raté. Le mieux alors est de recommencer. Vous prenez un jaune d'œuf bien frais, vous le précipitez, etc., etc. L'auteur de la cuisinière bourgeoise a oublié de mentionner les conditions essentielles à l'élaboration d'une bonne mahonnaise. Une atmosphère glaciale et de rigueur. Il importe, pour réussir, de se placer dans un courant d'air, au sommet d'un clocher ou dans le voisinage de Monsieur Carreau. Essayez de parachever une mahonnaise sur le cratère du Mont Vésuve, dans un couloir de jolies bergères ou à côté du député Langlois, constituerait une entreprise ultra téméraire. En outre, il est bon d'être deux, pas trois, deux, Quand on est trois, il y en a un qui ne fait rien. À deux, la sauce se combine à merveille. L'un tient la petite cuillère, l'autre distribue correctement et exactement les gouttes d'huile, et la sauce terminée, des rivalités éclatent, mais celui qui a versé essaye d'usurper la gloire de la main qui a battu, et au moment psychologique où l'on additionne le vinaigre, il est possible qu'on brouille ainsi avec son plus vieux camarade. Car une mahonnaise se prépare entre amis. Encore doit-on choisir son monde. Je n'aurai aucune crainte avec des collaborateurs comme Berton ou M. de Lamotte, mais je m'attendrai continuellement à voir l'huile de Provence se perdre en liaison dangereuse s'il m'arrivait d'avoir une entreprise de ce genre avec Doré ou Sarah Bernard. Bref, pour réussir une mahonnaise, il faut un jaune d'œuf, un bol, une petite cuillère, de l'huile, un collaborateur sympathique et du sang-froid. Un soir, comme Abel venait de partager honnêtement le repas de Cécile, il aperçut, vautré sur un plat de vermeil que supportait le gothique dressoir de la salle à manger, une langouste énorme, une sorte de monstre marin vermillonné et rugueux qu'on eût dit choisi pour la subsistance d'une garnison. Comme il essayait de se rassurer et considérait la table mise où deux couverts seulement se faisaient face dans une allure de tête-à-tête, Cécile entra, rajustant parmi les dentelles de son cou le croissant de son agrafe diamantée. Son heureux sourire de chaque soir se transfigurait en moue boudeuse. Abel crut à un bracelet perdu, à un ruban fané, à quelques gros chagrins d'enfant, gâté, contrarié par sa modiste ou par son prétention, petit chien. Dieux infernaux! La catastrophe était pire. Une cuisinière distraite avait manqué la sauce destinée aux mets favoris de la gourmande. Et au lieu et place d'une mahonnaise harmonieuse, elle avait servi un mélange écœurant, une marinade affreuse à l'œil nu, et le dîner était manqué. Albert protesta. Quoi de plus simple à faire qu'une sauce? Et sans lui permettre une objection, il arracha ses gants, choisit sur le bahut un gros bol de vieille faïence rouennaise, demanda un jaune d'œuf bien frais et se mit à l'œuvre. Mais, dès les premiers tours de la petite cuillère, il reconnut combien son bon vouloir resterait vain, soit manque d'habitude culinaire, soit retour du trouble ramené par la contemplation des grands yeux de Cécile. Alors il appela secours. Il était temps. L'huile répandue avec caprice menaçait de transformer la mahonnaise en potage. Cécile intervint. Sa blanche main saisit le vieil huilier madrilène à double renouclure et versa. Mais à quoi tiennent les destinées? En regardant cette petite main fine où le sang dessinait de minces lignes d'azur, en admirant cette menotte aristocratique cambrée à la tâche d'un poignet frêle, chargé de bracelets et noyé dans des dentelles de la manchette, il sentit des vertiges lui monter du cœur à la tête, des tentations lui mettre aux lèvres une folie de baisers. Et il osa bientôt. Et Cécile, d'abord effarouchée, eut garde de compromettre la sauce. Malgré ses plaintes indignées, malgré l'émoi qui fit passer sur tout son adorable personne, un frisson inquiétant, elle demeura la main tendue et crispée, le poignet ferme. Et la petite cuillère tournait toujours. Heureux, sans remords dans le crime, Abel s'enhardit. Son baiser frisa les doigts de l'enfant, caressa la naissance du bras où sa moustache traîna une douceur de soie. Et elle, attentive, héroïque, considérait le mélange. Un moment, soupçonneuse, elle se pencha, et le marmiton volontaire, fermant les yeux, s'abattit, les lèvres ouvertes comme deux ailes rouges parmi les blonds cheveux noyés de poudre odorante. La petite cuillère s'arrêta. L'huile madrilène reprit nonchalamment une place de hasard parmi les cristaux du couvert. Quelques mots exquis furent échangés à voix basse, et lorsque tous deux relevèrent les yeux, comme au sortir d'une extase, Cécile montra à Abel, sur le plateau de vermeil, la grosse langouste qui les écoutait en rougissant.